Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast cette semaine, podcast en comité restreint. On n'est que deux, nous ne sommes que deux avec Madiane pour discuter théorie, fenêtre de titre, contender. Bref, un podcast bien été, bien Dunk Hebdo. Comment ça va Madiane? Est-ce que tu es prêt à te remuer les méninges? Parce que là, on est clairement sur un bon podcast théorique des familles.
Eh ben, ça me va très bien. En plus, pour un retour, ça faisait un moment que j'étais pas passé, donc c'est parfait là.
C'est parfait là. On en reparle dans une heure, Madiane. Du coup, on en reparle dans une heure, mais on va partir d'un fait d'actualité. Donc cette rumeur KD proposée, un package proposé par les Celtics aux Nets. Et on va un peu en parler pour parler un peu de cette théorie de fenêtre de par rapport au titre qui est souvent invoqué, mais dont on ne connaît pas trop la définition. Avant de faire ça, on vous rappelle la petite chanson. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, etc. Quelle que soit la plateforme, n'hésitez pas à nous noter. C'est toujours important pour nous. On marque la petite pause. Je ne vais pas m'étaler parce que c'est très dense aujourd'hui. Et puis, c'est parti pour ce nouveau podcast. Alors, avant de commencer, Madiane, je te propose d'expliquer aux auditeurs d'où part cette idée. Parce que quand il y a des podcasts alambiqués, comme celui-ci, celui sur les marchés, par exemple, ça vient souvent de mon esprit un petit peu détraqué. Et je tiens à remercier l'équipe à chaque fois, parce que vous me suivez toujours dans ces idées, les gars. Je te remercie toi, Madiane, je remercie tout le monde. Parce que parfois, c'est lunaire. Au début, ça n'a aucun sens. Mes débuts de trame n'ont aucun sens. La proposition du sujet n'a pas plus de sens. Mais on me suit, donc je vous remercie, les gars. Moi, ça a germé suite à la proposition et le package dont je viens de parler. Donc, l'idée, la rumeur selon laquelle les Celtics auraient proposé un package autour de Jalen Brown à Kevin Durant. Et par rapport à ça, il y a eu deux fractions, j'ai l'impression, dans la fanbase des Celtics qui se sont créées. Une qui était favorable au deal en disant « bon, bah ça nous ouvre vraiment notre fenêtre pour un titre à court terme ». Et une autre qui était contre en disant on l'ouvre peut-être à court terme, mais on la gomme à long terme. Et ça, je t'avoue que ça m'a fait beaucoup penser à ce débat autour de cette idée de fenêtre pour un titre. J'y avais déjà pensé avec les Suns suite à leur élimination. Il y avait un grand débat. Est-ce que leur fenêtre de titre est déjà terminée après leur élimination en 7 contre les Mavs? Et puis, j'ai été beaucoup influencé. C'est un truc que j'ai vu dans mes études, John Kingdon, c'est une théorie en sciences politiques, la fenêtre d'opportunité, inscription d'un problème à l'agenda politique. Je vais pas vous faire un cours, mais c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Et dans ce genre de podcast, Madiane, je sais qu'on aime bien poser les termes, essayer de faire réfléchir les auditeurs. On n'a pas toutes les réponses, mais essayons de réfléchir à un terme, celui de fenêtre, de titre, qu'on utilise tout le temps et dont on n'a pas la définition. Donc Madiane, pour commencer, très simplement, c'est quoi, selon toi, une fenêtre de titre? Les Américains disent Championship Window. On va utiliser fenêtre pour faire plus simple aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est?
Pour moi, en fait, j'ai trouvé une analogie qui est celle du casino. C'est-à-dire que tu cherches à devenir millionnaire, mais c'est une machine pour laquelle il faut miser beaucoup. Donc, du coup, il faut que tu aies suffisamment d'assets pour avoir le droit de miser sur cette machine. Par contre, si tu mises dans cette machine, tu n'es pas sûr de gagner. Mais en plus, tu vas réduire tes assets et donc tu ne pourras pas forcément rejouer indéfiniment à cette machine. Du coup, tu t'accumules assez pour avoir suffisamment d'argent pour jouer à cette machine. Mais quand tu joues, tu sais que si tu perds, ça va être très dur de rejouer deux, trois fois de suite. Et pour moi, je trouve que c'est la très bonne analogie, c'est de dire c'est une équipe qui est suffisamment forte pour pouvoir considérer que le titre est jouable avec un ou deux moves supplémentaires, mais que faire ces mouvements supplémentaires, payer des taxes, envoyer ses choix de draft, ce n'est pas quelque chose qui est viable au long terme, parce qu'en plus, pour la mécanique de taxes, et on l'abordera quand on passera sur les salaires, plus tu restes dans les taxes, plus tu les payes cher. Donc, tu peux pas y rester indéfiniment. Donc, c'est vraiment la question d'une machine tu ne peux pas le refaire plusieurs années de suite.
J'aime bien ta définition, Madiane. Point sur lequel, il y a certes, dans ce genre de podcast théorique, on s'est pas entendu sur tout. Donc, je vais découvrir certaines choses avec vous. C'est pour plus de réel dans l'émission. Et j'adore que dans ta définition, il y a vraiment l'idée de limite. La fenêtre est pas extensible à l'infini et ça coûte beaucoup, en fait. Donc, avec l'analogie du casino. Quand j'ai recherché, moi, alors déjà, comme je l'ai dit, j'ai été surpris de voir que quand on recherche même en français, en anglais, par rapport à cette idée dans la sphère NBA, il y a quasiment aucun article qui ressort. Il y a un article en NFL de Sports Illustrated, mais j'ai pas trouvé la définition très intéressante. Et pour aller dans ton sens avec cette idée de la limite d'âge, dans un article par rapport au baseball, j'ai trouvé cette idée, je cite, que c'est un concept basé sur l'idée qu'une équipe ait besoin d'un groupe de vétérans talentueux pour gagner, prétendre au titre, mais ce groupe ne peut être dans son prime pendant un temps limité. Et encore une fois, cette idée de la limite dont on va revenir, sur laquelle on discutera beaucoup à la fin. Puis j'ai trouvé aussi ce concept NHL pour un peu clore le tour des sports américains. Jake Adams, légende de la NHL, qui expliquait qu'une équipe devait se renouveler tous les 5 ans. Pour moi, la définition de la fenêtre, elle est assez simple. C'est la période pendant laquelle une équipe est théoriquement candidate au titre. Elle dispose de cette fenêtre plus ou moins ouverte pour l'emporter. J'estime donc qu'elle n'est pas ouverte de la même manière pour tout le monde. Madiane, du coup, est-ce que fenêtre de tir, fenêtre pour remporter le titre, c'est répétition après année du statut de contender, en fait, d'être candidat au titre?
Oui, c'est ça. C'est être, comme dit dans la table des 5-6 équipes qu'on envisage pour un titre. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup là-dessus, et c'est ce que j'avais développé sur le titre des Bucks quand on avait essayé de trouver qu'est-ce qui était un beau champion, quoi qu'il arrive, le champion aura systématiquement des circonstances favorables vers l'accès au titre. Mmh. Il n'y a pas, dans l'histoire récente, j'avais balayé, je crois, jusqu'à 2010, je n'ai pas trouvé un champion qui n'a pas bénéficié à un moment de circonstances favorables ou de rivaux qui ont eu des circonstances défavorables et qui, du coup, ne sont pas allés lui barrer la route. Donc, pour moi, en fait, tu arrives dans cette fenêtre où tu es à la table des 5-6 qu'on envisage pour un titre, mais c'est le fait que tu ailles au bout ou pas dépend quand même beaucoup aussi du facteur chance, blessure, qu'est-ce qui se passe chez les autres, comment va se dérouler la saison. Et ça, c'est des facteurs que tu ne maîtrises pas. Donc en fait, c'est vraiment un ticket. Tu payes ton ticket pour pouvoir prétendre à cette idée-là. Mais à partir de là, il y a du sportif qui va jouer et il y aura les circonstances des playoffs et de la saison qui vont aussi faire des choses. Je donne un exemple. Je sais pas, on va prendre les contenders de l'an prochain. Je prends très simplement les champions sortants. Imaginons les Warriors perdent Stephen Curry. Fenêtre fermée, c'est fini. Pourtant, ils seront assis à la table, mais ils perdent Stephen Curry. Ça se ferme. Et du coup, toutes les équipes à l'Ouest qui sont un peu dans ce pool d'équipes qui peuvent potentiellement prétendre à la couronne, bah forcément se retrouvent très favorisés d'un seul coup. Donc il faut être dans la situation d'y arriver, mais le fait d'y arriver ne dépend pas forcément que de toi.
Ça sous-entend aussi un truc intéressant, la fenêtre, c'est-à-dire que pour une même équipe, la fenêtre à certains moments peut être fermée et peut être ouverte indépendamment. Comment je pourrais expliquer ça? C'est-à-dire qu'elle peut s'ouvrir et se fermer. On n'est pas sur un concept comme quoi 4 ans de suite, ta fenêtre est ouverte et ensuite elle se referme. Tu vois, elle peut une année se fermer, une année s'ouvrir. Et ça, moi, c'était un truc que j'avais beaucoup de mal à expliquer. C'est-à-dire comment tu peux expliquer avec des termes simples qu'une année, l'équipe a une fenêtre ouverte et une fenêtre pas ouverte. Et tout simplement, moi, j'en suis venu à un point, c'est que être candidat au titre, il faut en fait souligner et mettre en avant deux idées. Il y a une candidature au titre théorique en ce moment, c'est au mois de juillet, d'août et de septembre. pendant l'intersaison, c'est-à-dire que tu vas faire les mouvements, historiquement on en parlera, tu as la puissance de feu, et ensuite tu as une candidature au titre que j'appellerais pratique, qui se situe pendant la saison régulière et qui vraiment s'affirme et solidifie en fin de saison régulière en play-off, où tu auras les états de forme, le seeding, la qualité de la saison régulière, etc. Donc je pense vraiment que aujourd'hui, tu vois Madiane, on parle ensemble des équipes qui sont candidates au titre, théoriques presque, qui sont candidates au titre pendant l'été. Je m'appuie sur un exemple. Oklahoma City, entre l'année post-finale NBA et le départ de Kevin Durant, est selon moi candidate au titre théoriquement à chaque été, tous les étés. Ils sont tout le temps candidats au titre dans cette période-là, mais de manière pratique, les blessures ont fait que leur fenêtre s'est fermée quasiment tous les ans, à l'exception de 2016, si on l'admet. Les Clippers actuels sont un peu dans ce cas-là aussi, selon moi. Leur fenêtre est, je considère, ouverte théoriquement chaque été depuis la signature de
Kawhi
et l'arrivée de Paul George. Mais les éléments ont fait que certaines années, elle s'est fermée. Donc, Madiane, pour revenir sur toi, est-ce que tu penses aussi qu'il faut faire cette distinction entre une idée plus théorique, être candidat au titre pendant l'été, au moment où on va juste regarder la puissance de feu, et être candidat au titre pendant la saison régulière et à l'entame des playoffs?
Oui, pour moi, il y a une vraie distinction parce que parfois, il y a des tirs d'opportunités qui s'ouvrent pendant la saison qui font que tu peux changer ton statut. On se souvient du coup de l'été pendant lequel Jimmy Butler veut quitter les Wolves. C'est ce qui ouvre une fenêtre aux Sixers qui sont à un shoot quasiment prêt de, à mon avis, passer les Raptors et aller chercher le titre. Ils se sont mis dans une position vers le titre, mais au départ, ils en étaient encore loin. Ils ont fait le mouvement qui leur a permis de passer ce step. Donc, il y a aussi ces mécanismes-là où des fois, tu as un effectif qui ira en play-off, mais qui n'a pas la maturité, ce qu'il faut pour gagner le titre. Et il y a un mouvement dans la saison qui s'ouvre et qui te permet de passer ce step. Et là, finalement, tu décides en cours de saison, au moment où ils font ce mouvement pour Jimmy Butler, ils décident d'ouvrir leur fenêtre. Clairement, c'est un move. OK, on joue le titre cette année. On va chercher Jimmy Butler, c'est pour aller chercher ce titre. Donc, c'est aussi intéressant. C'est qu'on peut décider de l'ouvrir en cours de saison. Et il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'il y a des équipes, et on l'abordera quand on décortiquera un peu l'historique, il y a des équipes qui signent pendant l'été que leur fenêtre était potentiellement ouverte et qui ne font pas les mouvements pour concrétiser cette ouverture parce que finalement leur fenêtre leur semble fermée pendant l'été, mais par exemple il y a des facteurs externes comme typiquement ce qui est arrivé aux Clippers qui font que la fenêtre des Clippers se ferme alors qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit fermée. Et donc, derrière, tu pouvais aller négocier un titre, mais comme tu ne le savais pas durant l'été, tu n'as pas fait les mouvements adéquats pour ouvrir cette fenêtre.
C'est là où l'idée de l'été, tu vois, Madiane, pour moi, est très importante. Et aussi, c'est intéressant ce que tu viens de dire, la manière dont l'équipe se voit dans le miroir. C'est-à-dire qu'on l'a dit très souvent, et je me réfère souvent, c'est d'ailleurs intéressant que ce soit Lawrence Frank qui ait dit ça à une Sloan Conference, que quand tu joues le titre, c'est une considération de chaque instant, et chaque mouvement est fait avec cette idée-là. Et quand tu penses jouer le titre en juin, et que tu entames la free agency en te disant l'année prochaine on joue le titre, ou en tout cas ou en juillet, août, tu sais que tu joues le titre, t'abordes pas ta free agency de la même manière. C'est pour ça qu'il est important de mettre vraiment cette limite à l'été, parce que l'été, c'est le moment où tu prends les décisions pour aller gagner le titre, ou en tout cas que t'estimes bonne pour aller gagner le titre. On peut être en désaccord avec certains mouvements faits par certaines équipes, mais la finalité pour ces équipes, notamment dont le proprio a aussi activé l'option titre, on en parlera des salaires dans l'émission, c'est à ce moment-là où tu fais la différence. Donc effectivement, il y a vraiment cette théorie du côté théorique, voilà, de la candidature au titre, que moi vraiment je vais opposer côté pratique qu'on verra un peu plus tard, qui n'est pas vraiment notre sujet aujourd'hui. Par rapport au côté théorique, Madiane, je pense qu'aussi il faut dire, et je pense que ça sera peut-être un point de désaccord, je pense que historiquement, parmi tous les candidats au titre théorique, et on parle dans un instant, on va parler dans un instant de ce qui fait un candidat au titre théorique, il y a très peu de fenêtres qui s'ouvrent pour des équipes qui n'étaient pas dans les théoriques pendant la saison. C'est-à-dire qu'en gros, il faut être déjà dans le peloton de tête. C'est rare qu'un qu'un candidat au titre revienne de derrière ou se révèle pendant la saison, en fait. Quand j'ai fait mes recherches sur les titres depuis 2000, il y a une équipe, une et demie, qui était complètement imprévisible un an avant le titre. Les autres l'étaient déjà un petit peu.
Moi, je pense qu'il y a une distinction par rapport à ça. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a des équipes qui peuvent se révéler en cours de saison et qu'on ne voit pas forcément venir. Mais souvent, ces équipes-là ne sont pas renforcées par ou n'ont pas leurs joueurs majeurs qui viennent de signature ou de trade, mais qui viennent de leurs joueurs draftés. Souvent, les anomalies qu'on constate à ce niveau-là, d'équipes qui sortent un peu de nulle part, et moi je trouve quand même qu'il y a des exemples, vient souvent du fait que la structure de l'équipe est basée autour de joueurs draftés, et que parce que leurs meilleurs joueurs sont les joueurs draftés, qu'il y a une progression qui n'est pas prévue, qu'il y a aussi des salaires parfois qui ne sont pas en adéquation forcément avec la valeur du joueur, parce que dans les joueurs draftés, il y a des marges de progression entre le moment où tu signes le contrat et ce que peut donner le joueur à un instant T. Je pense que dans ces équipes-là qui ont drafté leurs meilleurs joueurs, il y a moyen qu'on ne les voit pas venir pendant l'été. Mais limite, c'est des équipes qui, à mes yeux, découvrent elles aussi pendant la saison qu'elles peuvent jouer ce titre. C'est-à-dire que même si les observateurs ne les remarquent pas, les équipes non plus ne l'ont pas remarqué. Généralement, il n'y a pas des... Parce que les mouvements, dès lors qu'ils sont faits vers le titre, ça se voit très vite, et du coup, forcément, on commence à te considérer comme un contender très vite. Alors que quand les mouvements ne sont pas faits durant l'été, alors certes, c'est une surprise pour les observateurs, mais à mes yeux, c'est aussi une surprise pour l'équipe, et c'est typiquement ce qu'on va aborder sur les Phoenix Suns qui sont arrivés en finale. C'est je trouve, un des cas types les plus intéressants.
Du coup, Madiane, si on résume pour l'instant, on est d'accord pour dire que être la fameuse fenêtre, c'est la capacité à répéter d'année en année le statut de candidat au titre pendant l'été et que tu feras les mouvements adéquats. Il faut donc se poser la question, qu'est-ce qui fait un candidat au titre pendant l'été ? Alors moi, j'ai beaucoup essayé de chercher et je sais qu'on n'a pas les mêmes points, mais du coup, ils se complètent, c'est assez bien. Alors déjà, il y a une vérité, j'appelle souvent ça Vegas, mais en gros, on va appeler ça théorique, on va appeler ça plus simplement les cotes de saison, et en tout cas de pré-saison. Ça, j'ai été chercher ça sur le site de Basketball Référence. Depuis 2000-2001, tous les champions en titre étaient dans le top 5, donc parmi les 5 favoris des cotes de pré-saison, à l'exception de 4 équipes, les Pistons de 2004, les Mavericks de 2011, les Spurs de 2014 et les Warriors de 2015. Donc en gros, il faut que tu sois en gros dans le top 5 des favoris avant le début de la saison. Et encore plus fort, à 14 reprises sur les 22 derniers titres, le champion était parmi les 2 favoris. Pour moi, ça m'amène à penser quelque chose, Madiane, je pense qu'on surestime l'aspect blessure. C'est-à-dire qu'en gros, comme on vient de commencer à discuter, on peut rentrer plus dans le détail, la blessure d'un joueur majeur va aider certaines équipes du top 5, voire un peu plus, si on y va jusqu'au top 8, parce qu'historiquement, on va jamais plus loin que le top 8, mais ne va pas faire basculer des équipes de 12 à 3, non. Tu vois. Ce que je veux dire, en gros, c'est ça rapproche certaines équipes, mais ça pousse surtout celles du haut.
Non, je suis parfaitement d'accord, c'est ce que je dis. Finalement, c'est une table à 8. Ils sont tous assis, ils ont une table à 8. Et puis finalement, y en a un ou deux qui quittent la table parce qu'ils perdent leur joueur majeur. Mais tout le monde a les jetons et tout le monde est encore là en train de parier. Mais il n'y a pas un nouveau mec qui va s'asseoir à cette table en mode « Eh, salut, j'avais rien préparé, mais je veux venir jouer. » Parce que finalement, c'est les personnes qui ne préparent pas le titre. Finalement, je trouve que se font rapidement exploiter en play-off parce que penser son effectif pour aller faire une bonne saison régulière et aller accrocher les play-offs pour jouer la post-season, c'est une chose. Parce que tu calibres ton effectif plutôt pour aller gagner des matchs de saison régulière. Et calibrer ton effectif pour gagner ses playoffs, c'est pour moi une autre paire de manches. Où là, plutôt que d'essayer d'aller en te déplaçant tous les deux jours, essayer de gagner des matchs, c'est plutôt minimiser les faiblesses de ton effectif pour avoir le plus de joueurs capables de rester sur le terrain et de contribuer à la victoire de ton équipe sur 48 minutes. Pour moi, c'est une logique très différente.
On peut ouvrir le débat maintenant. Donc, si on part du principe qu'historiquement, si on découpe là, on voit les petits les strates. Donc fenêtre de titre, fenêtre, il faut être parmi les candidats au titre. Un des paramètres, on va en donner d'autres, hein, c'est être parmi les huit favoris à Vegas, très souvent top 5, très très souvent top 2. Est-ce que ça veut dire, et c'est hyper paradoxal, Madiane, que certaines équipes qui vont très loin, je pense aux Mavs cette année, je pense aux Hawks d'il y a 2 ans, je pense aux Blazers d'il y a quelques années, sont en finale de conf, mais leur fenêtre n'est pas ouverte?
Bah, typiquement, je pense notamment aux Blazers qui vont loin, on ne leur donnait aucune chance ensuite. On savait qu'ils se feraient taper fortement, peu importe qui se présentait face à eux. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une partie de tableau favorable, c'est pareil pour les Hawks, ils étaient dans une partie de tableau où ils n'allaient pas affronter les gros monstres sacrés de la conférence Est. Ils arrivent à gérer un upset contre les Sixers, ok, mais en soi, on savait qu'à partir de là, c'était fini. Il n'y avait pas de chance de titre malgré tout. Ça donnait plutôt des finales de conférence. Alors, c'était pas trop à sens unique, même si bon, la défaite était logique. Mais quand les Blazers arrivent en finale de conf, ils se font taper, mais ils se font taper fortement. Il y a même pas de discussion, parce qu'ils étaient arrivés dans des circonstances, dans la bonne partie de tableau, avec les match-ups qu'ils ont réussi à gérer, etc. De l'autre côté, il y avait tous les gros favoris de l'Ouest. Ok, ils arrivent en finale de conférence, peu importe qui gagnait dans l'autre partie de tableau, ils se faisaient taper. Il y avait pas de fenêtre. Donc oui, tu peux arriver par chance, par seeding, parce que voilà, il y a des circonstances qui font que des fois il y a des demi-parties de tableau ultra favorables. Néanmoins, dès la finale de conf, il y a un peu un révélateur de qui tu es vraiment, et tu te fais taper. Et il y a pas eu à mes yeux d'équipes qui sont arrivées en finale NBA. On s'est dit c'était pas la meilleure équipe de la conférence, sauf évidemment des blessures. Mais là, c'est d'autres circonstances. C'est quelqu'un qui était à la table et qui s'est retiré parce qu'il y a eu une blessure. Mais généralement, tu n'arrives pas en n'étant pas la meilleure équipe. Parce que quand bien même, imaginons, t'es la quatrième meilleure équipe de la conférence et que le 1, 2, 3, ils sont dans la même partie de tableau, peu importe qui tu rencontres, tu vas sortir.
Ouais, mis à part circonstances favorables. Après, là où je suis peut-être pas d'accord, c'est, je pense qu'il y a des chances pour 1, 2, 3, mais c'est-à-dire pour moi, c'est les scénarios un peu hollywoodiens où non, la quatrième meilleure équipe d'une conf peut pas aller en finale NBA, en fait. Ça n'existe pas, sauf scénario justement hollywoodien. Tu peux descendre à 1, 2, 3 si le seeding il est vraiment bizarre cette année-là. Il y a des circonstances assez extraordinaires, mais par exemple, le fameux débat... qu'on a depuis plusieurs années. Maintenant, est-ce que les Rockets sont pas leur meilleure année? Est-ce qu'ils sont pas meilleurs que les Warriors? Une chose est sûre, c'est qu'en gros, ça se joue entre les deux équipes-là et qu'il y a pas de, comment dire, il y a pas de honte si aucune de ces deux équipes-là passe, en fait. C'est-à-dire que la notion de meilleur est très très proche, mais c'est la surprise aurait été l'anomalie si ce n'est pas une de ces deux équipes-là qui passait, en fait. Donc je pense qu'il y a de la place pour 2-3 équipes. Ce qu'on explique par là, c'est vraiment cette idée. Il n'y a pas de finale NBA qui arrive par hasard, en fait, pour une équipe. Ça n'existe pas. On va s'attaquer dans quelques minutes à des cas qui sont souvent un peu fantasmés. Vous verrez qu'ils rentrent même dans certaines cases, en fait. Je pense au Mavs de 2011, par exemple, etc. Passons. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire, Madiane, sur Vegas et le top 5?
Non, on est pas mal dessus.
Du coup, ce qu'on va faire, ce qui est très marrant, même si l'ami Kevin Durant nous complique un petit peu la tâche, c'est d'appliquer tout ce qu'on dit à l'année prochaine, en fait. Parce qu'on est justement dans le moment théorique en ce moment. On est fin juillet, début août. Donc, appliquons tout ça maintenant. Quand on prend le top 10 à Vegas, et encore, on voit large, on remarque quoi? On remarque d'abord qu'on a les Warriors premiers et on a les Celtics deuxième. Bon, une période de l'année où... On remarque une chose aussi, moi. Du coup, j'ai fait les 20 années, Madiane. C'est une des années où les cotes sont les plus indécise. Il y a des années, je pense aux années où les Warriors étaient favoris ou les Lakers de chaque, c'est n'importe quoi. Enfin, tu perds presque de l'argent en misant sur eux. Donc, il fallait pas le faire. Mais là, on voit beaucoup d'indécisions. Ce qu'on remarque directement, c'est qu'on éliminerait les Nuggets et ça serait difficile pour le Heat et les Suns. Ça, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Les codes sont jamais très favorables envers le Heat. Enfin, voilà. Donc, en gros, pour vous donner à l'heure actuelle, si on suit cette idée de code qui est très importante, le champion se situerait Warriors, Celtics, Nets, Astérix, Clippers, Bucks, en gros. Moi, je rajouterais à ça l'équipe où arrivera Kevin Durant, en fait, parce que je pense qu'elle se mettra dans le top 5, quoi qu'il arrive. On peut enchaîner, Diane, du coup, sur les salaires. Parce que je sais que les salaires, du coup, c'est ce que tu as bossé et c'est un point important pour déterminer plusieurs mois avant qui a une fenêtre ouverte.
Oui, tout à fait, parce que finalement, il faut regarder les leviers d'amélioration de l'effectif. Tu peux effectivement recruter des joueurs via la free agency, et du coup, tu vas te caper. Tu vas renouveler tes joueurs draftés ou qui ont des bird rights au-delà du cap, et tu vas commencer à rentrer dans ce qu'on appelle les taxes. Et c'est là où ça va être très intéressant, c'est que généralement, pour réussir à être contender, hors exception, eh bien, mine de rien, il faut souvent être au top de la taxe. Par exemple, du coup, cette année, si on reprend l'exemple, les deux favoris qu'on a, c'est Boston, Golden State. Golden State, c'est la deuxième équipe la plus payée de NBA. Boston, c'est la sixième. Ça reste, disons, classique et logique autour de ça. Les Nets, qui sont en 3, c'est la quatrième équipe. Et finalement, en 1, on trouve les Clippers, en 3, on trouve une Milwaukee. On retrouve en fait tout ce beau monde qu'on met dans la portée du titre. Ben, mine de rien, c'est dans le top des équipes les plus dépensières cette année. Donc, il y a littéralement aucune surprise par rapport à ça. J'étais un peu fouillé dans l'historique, du coup, par rapport à ça. Et effectivement, globalement, on a souvent... les équipes qui sont dans le top des salaires. Il y a des exceptions, par exemple en 2016-2017, Golden State, c'est la 14e équipe la plus chère de NBA, mais bon, le cap venait d'augmenter, donc on avait des aberrations comme Portland en 2, donc c'était peu représentatif. Mais par exemple, les classiques, c'est des 2017-2018, Cleveland 1, Warriors 2. Du coup 2015-2016, Cleveland 1, Warriors 4, et complété par Clippers, OKC, San Antonio, qui étaient vraiment les équipes qu'on avait vues dans la post-season pouvant émerger, parce qu'en fait Cleveland écrasait à l'Est, et vraiment là où on avait un gros top de contenders, c'était plutôt à l'Ouest, et c'était vraiment que ça les salaires. Les exceptions, je les ai notées. C'était 2013-2014. San Antonio est 19e, mais San Antonio est un peu pour moi une aberration permanente dans ces classements-là, parce que c'est une équipe qui, par exemple, au moment où ils gagnent, payait Kawhi Leonard 1,9 million et avait une structure de joueurs draftés présents depuis longtemps. Donc finalement, c'est à mes yeux une équipe peu représentative. On a une autre exception qui est 2014-2015, Golden State 14e salaire qui gagne le titre. Mais encore une fois, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe-là? Il y a notamment le contrat de Curry qui est à bas coût, parce que au moment où il le signe, il a des problèmes de blessure, notamment à la cheville, et donc du coup il signe à moins cher que ce qu'était sa valeur terrain. Donc voilà, on a des exceptions comme ça, mais au final, quand on regarde au global et quand on fait une moyenne de tout ça, les équipes en finale sont toujours dans le top des salaires, hors exception, c'est-à-dire, et les exceptions, c'est à chaque fois soit changement de salary cap, soit une équipe composée avec des joueurs draftés, avec des salaires négociés à des moments où leur valeur terrain ne reflète pas forcément la valeur contrat. Donc c'est là où il y a des décalages qui se créent. La dernière exception, c'est en 2021, où les Phoenix sont 22e et arrivent en finale NBA.
C'est pour ça que cette qualification en finale NBA des Suns, ils sont passés pas loin. Ça aurait été, dans tous les petits calculs qu'on a fait, je pense, ça aurait été une grosse ligne rouge. Hein, parce qu'ils rentraient dans peu de cases. Ils rentraient dans très
Mais
peu de cases.
Mais au final... justement, on en discutait, ces Suns-là ne rentrent pas dans nos cases, mais justement, ne rentraient même pas dans leurs propres cases, parce que c'est ce qu'on expliquait lorsqu'on débriefait ces finales face à Milwaukee, c'est, ils sont pas loin, et finalement, ce qui leur manque, c'est typiquement les joueurs que recrutent souvent les équipes contenders. Et ces joueurs-là étaient absents du roster, ces gros vétérans, qui ont l'expérience de ces joutes pour le titre n'étaient pas présents. Ils avaient effectivement un Chris Paul, mais Chris Paul, c'est un ajout majeur pour stabiliser le roster et l'effectif qu'ils font. Mais c'est tout. Ils ne s'attendent pas à jouer le titre parce que finalement, les joueurs qui manquent pour aller gagner le dernier match face à Milwaukee, c'est typiquement ce qu'on avait pointé, c'est les joueurs que tu prends généralement quand tu sais que tu vas faire ces joutes de play-off. Et ils se sont retrouvés avec à être trop limités face aux adaptations des Bucks et à se faire dominer physiquement avec typiquement des joueurs briscards de play-off qui viennent un peu taper sur des jeunes un peu trop tendres pour ce type de joute.
Ce qui fait donc, Maliane, si on reprend notre strat, vous inquiétez pas, la notion de fenêtre va revenir parce qu'on a donc dit que la fenêtre, c'est une répétition du statut de candidat au titre. On a donc expliqué que le statut de candidat au titre, dans notre vision théorique qu'on applique aujourd'hui, c'est être un des favoris à Vegas, c'est être parmi les équipes qui dépensent le plus. C'est être aussi troisième chapitre. Moi, je me suis posé une question, Madiane, c'est à quel point il est nécessaire d'avoir déjà été contender ? C'est-à-dire, est-ce que l'équipe sortie du chapeau, c'est une théorie qui existe vraiment ? Et là, en fait, je me suis appuyé sur un article de 2019 de Jared Dubink, journaliste NBA, un peu connu. Lui, il a réfléchi à l'idée de fenêtre comme nous, mais du coup, j'ai utilisé ces données pour faire autre chose. Lui, il voulait regarder la durée moyenne d'une fenêtre. Je parlerai de ses résultats un peu plus tard. Moi, j'ai voulu regarder en disant, d'accord, je vais regarder toutes les équipes titrées et je vais regarder est-ce que leur titre coïncide avec la première année de leur fenêtre. Ce que j'ai remarqué, c'est que encore une fois, en repartant, ils partaient du titre des Lakers en 2001. En repartant du coup sur ces 22 derniers titres, j'ai vu que dans 17 cas, quand je prends ces critères de contender, que j'expliquerai un peu plus tard si on a le temps, parce que c'est un podcast assez dense, je vois que 17 équipes titrées sur 22 étaient déjà contender selon lui l'année d'avant. Donc, pour moi, ça bat beaucoup en brèche, encore une fois, cette idée d'équipe un peu surprise qui arrive un peu de nulle part. Les cinq contre-exemples sont intéressants parce que pour moi, ils renvoient tous à un modèle type. Il y a deux contre-exemples qui, pour moi, sont l'ajout d'un joueur majeur pendant l'été, Celtics du Big Three et les Lakers en 2020, qui ajoutent donc Anthony Davis. Là, t'ajoutes des All-NBA, ça change forcément ce qui se passe dans ton équipe. Il y a le retour du contender, Warriors cette année, où on s'est trompé, les fans des Warriors nous le font assez remarquer, on n'a pas cru en eux. C'est tout simplement ce que j'appelle le retour d'un contender. Vas-y, Madame.
Non, mais justement, c'est pour moi une anomalie de construction, c'est-à-dire qu'ils sont dans les bas-fonds après leur run de 2019, c'est-à-dire une fenêtre qui se ferme, et en fait, finalement, ils font ce qu'il faut, c'est-à-dire au lieu de remettre des sous dans la machine, ils se sont juste placés comme il fallait pour réouvrir.
Ils sortent du casino.
Voilà, ils sont sortis du casino, ils sont allés ramasser un peu de sous, et ils sont re-rentrés tout de suite dans le casino en mode ah, c'est bon, on peut rejouer. Mais du coup, c'est intéressant. C'est-à-dire que il a fallu quand même passer par 2 ans sans rien pour relancer un run.
Et c'est là où la théorie, qui pour moi, depuis toujours, quand la fenêtre se refermait pour une équipe, elle se rouvrait jamais dans sa même. Quasiment avec le même corps de joueurs. Les Warriors ont un peu prouvé ce contre-exemple. Les Mavs de 2011 sont un très bel exemple de cela. C'est-à-dire que les Mavs de 2011 portaient ce titre sur un espèce de piédestal en oubliant que les Mavs des années milieu des années 2000, fin des années 2000 sont des contenders. C'est oublier une partie de l'histoire, en fait. C'est-à-dire que dans le modèle de Dubin, ils sont contenders 3 ans de suite. Ils ont 2 ans de vide. Et ils reprennent après. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont contenders très peu de temps avant. Leur superstar est toujours là, Dirk Nowitzki. Donc, ce n'est pas un titre qui sort de nulle part. Encore une fois, je reprends le truc des les cotes à Vegas. Ils ne sont pas 15e à Vegas. Ils sont dans le top 8 aussi. Donc, leur chance de titre, ce ne sont pas les favoris, mais ce n'est pas fou d'imaginer cette équipe-là.
Non, aussi. Mais en fait, c'est surtout, on peut le voir, c'est-à-dire que ta fenêtre peut se refermer pour X raisons. Mais si tu gardes le cœur de joueurs qui faisait que ta fenêtre était ouverte avant et que ces joueurs maintiennent un niveau similaire à celui qui était avant l'ouverture de la fenêtre, tu peux remettre les pièces dans la machine et relancer. Là où ta fenêtre se referme définitivement, c'est si t'es contender avec tes joueurs majeurs qui sont à 33, 34, 35 ans, et là qui sont vraiment dans leur on pense, dernier run vers la phase descendante de leur prime, bah évidemment, tu ne pourras pas attendre 2 ans et relancer une fois qu'ils auront passé 36, 37, 38 ans, parce que là, c'est sûr, leur niveau aura descendu. Donc pour moi, c'est vraiment une question de quand tu as refermé ta fenêtre, tu peux la réactiver, mais à cette condition que tes joueurs stars qui restent là sont toujours dans leur prime. Et finalement, bah, Dirk, quand il fait le run en 2011, il est un excellent niveau. Il est, à mes yeux, un peu moins bon que les années d'avant, mais il reste un excellent niveau. Et c'est ce qui fait que la fenêtre peut se réouvrir. Dans l'exemple des Golden State Warriors, on a un Clay, un Draymond qui sont effectivement pas au niveau auquel ils étaient au moment des runs précédents, mais le joueur majeur qui reste Stephen Curry, je le trouve pas spécialement moins fort qu'à ce moment-là. Donc, c'est ce qui fait que la fenêtre se réouvre.
Et c'est là où c'est compliqué, parce que tu vois, Madiane, si on fait notre distinction entre la fenêtre théorique et la fenêtre pratique, c'est là où les Warriors, sur tout leur run étendu, sont une équipe extrêmement difficile à cerner. C'est parce que quand la fenêtre, théoriquement, quand on apprend, par exemple, que Clay se fait le... Tu vois, théoriquement, même quand KD part, 2019, ce sont des candidats au titre théoriques, en fait. Et c'est pratique, ça tombe, en fait. Et c'est pour ça que je me suis vraiment posé la question, est-ce que la fenêtre théorique des Warriors, elle n'est pas restée ouverte tout le temps et que c'est leur fenêtre pratique, donc celle de la vérité terrain des joueurs, qui leur a fait défaut?
Non, parce que en fait, je trouve que le front office des Warriors s'est dit notamment quand il y a le fait que tu sais que tu n'as pas Clé. Je ne sais plus qui avait utilisé ce terme dans le podcast, qui a dit « ces enfoirés, ils tankent quand même plutôt bien ». C'est-à-dire qu'ils sont allés quand même choper un super pic de draft qui, en plus, c'est ça qui est dingue, ne les a pas aidés à gagner...
Ne contribue pas.
Non, mais on se rend compte de l'aberration, c'est qu'ils sont allés choper un top pic de draft qui ne les a même pas aidés à contribuer au titre. C'est de la science-fiction, cette histoire. Mais néanmoins, dans cette année-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont fait jouer des joueurs qui ne seraient jamais allés voir le terrain si ils étaient dans une année contender. Donc même eux ont organisé leur saison en se disant « Bon, on n'est pas contender, on va aller amasser des billets. » Et c'est ce qui leur a permis d'amasser des billets pour leur permettre d'arriver là avec des joueurs qui étaient dans le roster et ont contribué. Donc c'est ça qui est intéressant.
Est-ce que c'est pas surestimé? C'est là où tu vois, pour moi, les Warriors ont aussi eu un réflexe d'équipe qui jouait le titre et qu'on n'a pas su anticiper. C'est que je lis beaucoup ce récit-là, mais quand je regarde les finales NBA, alors je vois Jordan Poole, mais quand on fait la liste des joueurs qui ont le plus d'impact et qui sont vraiment mis en avant, il y a des joueurs de l'ancienne équipe des Warriors. Andrew Wiggins, c'est pas un joueur qu'ils ont modelé. Otto Porter, ils ont réussi à le réanimer. Il y a quand même une importance très...
Ah oui.
Enfin, sans rentrer dans un débat Warriors. Cette idée comme quoi ils ont un peu préparé la suite, c'est aussi qu'on avait sous-estimé le niveau de leur superstar, je pense, et leur capacité à revenir. Parce que, tu vois, si je bascule sur mon troisième point, cette cinquième anomalie, j'ai donc parlé de d'abord l'association de superstars qui fait que tu passes de non-contender à contender, Celtics du Big 3 et Lakers avec AD. Le retour d'un contender, les Warriors cette année, les Mavs, il y a ce que j'appelle l'explosion d'une jeune équipe, Warriors, point d'interrogation, 2015. Les Warriors arrivent. On parle souvent des All-Stars à cette époque-là. Stephen Curry a fait un seul All-Star. Clay n'est pas All-Star. Ils ont André Godala qui a fait l'All-Star Game 2 ans avant. Mais c'est une équipe qui est pratiquement, dans les petites colonnes que j'ai pu faire, Madiane, elle est impossible à pronostiquer, celle-ci, comme future gagnante du titre. Donc, est-ce qu'elle vient pas contredire cette idée comme quoi, bah, il y a peut-être des fenêtres qui s'ouvrent pendant la saison?
Ah, c'est ce que j'ai dit. Et finalement, du coup, tu rejoins mon point. C'est que les fenêtres s'ouvrent pendant ta saison.
Grand jeu d'acteur. Dans
le cas où les joueurs qui font que tu passes le next step sont des joueurs que tu as draftés. C'est-à-dire que leur progression, que tu n'anticipes pas fait que tu passes le step. C'est-à-dire que au final, on a tourné autour du pot et on n'a pas abordé un des éléments les plus importants qui fait que tu es contender. Tu dois avoir un joueur au minimum ranké top 10 du DH20. Je vois difficilement une équipe gagner sans ça. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et donc, ça, c'est un truc que tu peux ne pas te rendre compte que tu as. Notamment, Alan, que je salue, où on discute beaucoup du cas de Jimmy Butler, où justement, le hit, on les attend pas forcément, on sait pas trop où situer par rapport à eux. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on change d'opinion sur le hit pendant les playoffs? On se dit, merde, quand même, bon Jimmy Butler, il est où dans notre DH20? Bah oui, mais du coup, c'est des choses qui font que toi, en tant qu'observateur, t'anticipes pas forcément une équipe, c'est que tu ne t'attends pas finalement à ce qu'un joueur soit aussi fort aussitôt. Le run des Nuggets, par exemple, dans la bulle, c'est pas une équipe qu'on attend de base. Mais pourquoi les Nuggets font un run? C'est qu'en fait, Jamal Murray, c'était n'importe quoi. C'était il y a eu des moments, c'était Michael Jordan dans la bulle. Je revoyais un lay-up qu'il met face à Rudy Gobert, où il se retourne, il fait un 360 en l'air et j'ai dit, mais attends, c'est Michael Jordan, ça, c'est pas, t'es sûr que c'est Jamal Murray, le bordel? Non, vraiment, je l'ai revu, j'ai fait, oh, j'avais oublié cette affaire-là. Mais voilà. Donc, des fois, t'as des joueurs comme ça qui, tu les as draftés, ou tu les as dans ton effectif, mais souvent draftés, et bah tu te rends compte en cours de saison, bah en fait ils sont incroyablement beaucoup plus forts d'un seul coup. Stephen Curry, il est MVP. Qui avait mis Stephen Curry MVP avant de lancer la saison?
Et c'est là où Madian, je suis d'accord, mais je lance une petite pique. Est-ce que c'est pas un peu l'équivalent équipe du cas LeBron, c'est-à-dire quand les Warriors sont l'exemple d'une règle, c'est que la règle est un peu bancale de base, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un peu fantasmé, ça. C'est-à-dire que, à part les Warriors 2014-2015 et les Suns qui s'en sont rapprochés, l'itinéraire de la jeune équipe qui explose tout d'un coup et qui se retrouve propulsée à deux doigts du titre, on a le Thunder, mais qui est pas à deux doigts du titre, hein, sur la série face au Heat de LeBron deuxième année, et de Dwayne Wade et de Chris Bosh. Est-ce que c'est pas un modèle fantasmé?
Oui, c'est un modèle fantasmé. Ça, c'est un truc qui peut arriver. C'est un signe noir. Donc, tu vois ton Black Swan, tu te dis, ah, en fait, je suis bien plus haut que ce que je pensais. Mais c'est un truc qui ne s'anticipe pas et sur lequel tu peux pas construire. Donc, sur lequel tu vas pas construire ton été. Tu vas jamais anticiper ce genre de choses. C'est ça qui se passe. Donc, du coup, tu ne peux pas reprocher au front office de pas anticiper. Je donne un autre exemple récent. C'est moi, je pense, c'est une conviction, je pense que les Mavs ont joué au con sur le contrat rookie de Luka Doncic, parce que quand t'as Luka Doncic au contrat rookie, moi, au bout de deux saisons, moi, j'étais convaincu que, envoyez les cacahuètes, c'est parti, parce que vous pouvez accumuler beaucoup de contrats très forts autour d'un contrat rookie qui vous donne une valeur terrain bien plus supérieure à la valeur de son contrat. Donc moi, je pense qu'ils ont fait une erreur là-dessus. C'est une opinion. Après, quel joueur on pouvait chercher? Enfin voilà, il y a des fois t'as pas les opportunités de marché et du coup ben tu bouges pas. Mais voilà, t'as des exceptions comme ça où je pense que les Mavs n'avaient pas compris que Luka Doncic était si fort. On s'est rendu compte vraiment du problème Luka Doncic la première série de playoffs qu'il dispute où il a des chiffres qui sont insensés. Là on fait ah, donc en plus en playoffs c'est encore plus fort que ce qu'il offrait déjà en saison régulière. Mais tu peux pas l'anticiper.
C'est pour ça, tu vois, par exemple, quand on regarde, si on revient à cette idée de il faut être contender à année moins 1 pour estimer que ta fenêtre est en partie ouverte, quand je reprends encore la technique Dubin, ça me donne Celtics, Warriors, Mavericks, Heat, Suns, Grizzlies. Déjà, est-ce que je suis vraiment d'accord avec le Maverick? Je sais pas. Quand je me dis, bon, est-ce qu'il y a une des équipes qui peut s'inscrire dans les trois autres modèles types d'exception? L'association de stars, bon, on va voir si où atterrit KD. Le contender endormi, les Bucks, parce que les Bucks rentrent pas dedans, mais c'est une anomalie. Les Clippers, peut-être les Sixers, mais eux, on en parlera peut-être après. Et l'explosion d'une jeune équipe. Alors, par définition, tu l'as dit, c'est impossible à prévoir, mais je vois pas qui, en l'état, peut rentrer dans cela. Ce que je veux dire dans cela, c'est que par exemple, les Celtics, s'ils gagnent le titre l'année prochaine, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Ce n'est pas l'explosion d'une jeune équipe. Parce qu'ils sont déjà ultra favoris à Vegas, ils ont déjà été en finale NBA, etc. Ensuite, si on continue sur le deuxième point que tu as déjà abordé, Madiane, c'est vrai que si on récapitule tout, hein, donc on a parlé d'être un favori à Vegas, on a parlé de la masse salariale, on a parlé aussi d'être un contender, être parmi les favoris un an avant. Il y a aussi la case MVP, c'est-à-dire que 19 des 22 dernières équipes titrées avaient un MVP à l'entame de la saison. Ça exclut donc les Warriors de l'année 2014-2015, que Steph est MVP cette année-là. Donc, à l'heure actuelle, ça nous donne un sacré paquet d'équipes, quand même. Ça nous donne Lakers, Sixers, Nuggets, Bucks, Nets, Knicks, Derrick Rose. Et Warriors, bon, c'est pas si les Knicks sont vraiment candidats. Ce qui fait donc, Madiane, ça nous montre aussi, encore une fois, on répète, on passe par certains lieux communs, mais dans le DH20, il faut être dans le top 10, tu l'as dit. Mais est-ce qu'on sous-estime pas, enfin en tout cas, quelle place pour les autres aussi, Madiane ? Parce qu'il y a très souvent, et c'est le titre des Mavs qui m'inspire dans cette réflexion, ce côté un peu chevaleresque, ah, un tel joueur, il était tout seul, il a réussi à gagner le titre. Quelle place pour les autres, Madiane ? Est-ce qu'on peut déjà, est-ce qu'il y a des critères qui peuvent nous permettre dès l'été de se dire, OK, cette équipe, sa fenêtre théorique est ouverte.
Déjà, je pense qu'il y a un très bon signe de savoir si sa fenêtre théorique est ouverte. C'est effectivement bon, bah, les joueurs top 10. Mais il y a aussi, au final, moi, il y a un contrat qui m'intéresse énormément dans le tas. C'est comment l'équipe va utiliser sa mid-level. Pourquoi ? Alors, en fait, la mid-level, c'est-à-dire, c'est un contrat que tu peux proposer pendant l'été. Et tu peux, avec, c'est une exception qui te permet de proposer un contrat plutôt intéressant pour renforcer ton effectif, même si tu es déjà capé. Donc tu n'as pas besoin forcément, d'avoir de la place dans ta masse salariale pour la proposer. Bon, elle est moins intéressante si tu es capé que si tu ne l'es pas, évidemment, mais cette exception est quand même très intéressante pour les cas des contenders. Et moi, je trouve qu'à chaque fois, ce que vont chercher les contenders, ça va être notamment d'optimiser cette offre en allant chercher un profil spécifique disponible dans le marché qui cherche lui-même à gagner le titre, c'est-à-dire que le joueur va accepter normalement une valeur contrat légèrement inférieure à sa valeur terrain parce que lui, ce qu'il veut, c'est remporter le titre à la fin de l'année. Et du coup, typiquement, les équipes qui sont contenders vont avoir un soin plus important, je trouve, à donner ce type de contrat parce qu'ils ne voudront pas se planter là-dessus. Je ne sais pas si tu partages cette analyse.
Si, c'est la capacité à profiter des rares petits avantages que tu as pour en tirer le maximum. Et c'est encore une fois, c'est une réflexion, on le répète, d'équipe qui est prédisposée, qui dans le miroir voit un candidat au titre en juillet. Je pense aussi, c'est très souvent, les paramètres s'accumulent. Hein. Quand tu es bloqué financièrement, bien évidemment, quand tu es bloqué financièrement, pourquoi ? Parce que tu as déjà des joueurs majeurs. Si j'en reviens à l'idée de joueur majeur dans l'effectif, bah, très souvent, moi, j'ai vu que dans toutes les équipes, sur les 24 derniers champions, 22 ont deux All-Stars dans les deux saisons précédentes l'année de leur titre. Pourquoi cette petite, par exemple, Jason Kidd est All-Star un an, la saison précédente du titre des Mavs, par exemple. Et même si c'est plus Prime Jason Kidd, ça reste un joueur. Tu vois, ça permet d'éliminer cette idée de joueur qui gagne tout seul, parce qu'en réalité, il y a peu d'exceptions à cette règle-là. Par exemple, on met souvent en avant les Pistons, j'ai été chercher Rashid Wallace et All-Star en 2001. Donc, ils ne rentrent pas dans la case, mais ça prouve bien qu'il y a très souvent des mecs qui étaient plusieurs... Il y a plusieurs All-Star dans l'effectif qui sont dans leur prime. Parfois, le jeu des sélections fait qu'un tel n'est pas All-Star parce que la concurrence est peut-être forte à son poste, etc. Mais ça fait tu dois avoir deux joueurs majeurs, peut-être une star qui sort du lot, un Giannis face à un Middleton, par exemple. Mais dans tous les cas, tu as deux joueurs majeurs. Ce qui fait donc, Madiane, si on récapitule tout, parce que là, on en a fait beaucoup déjà, pour être parmi les candidats au titre au mois de juillet, il faut être dans le top 5 à Vegas, plus gros salaire. Il faut également avoir été déjà très proche ou parmi les contenders l'année d'avant. Et il faut aussi avoir un MVP dans ton effectif, ou en tout cas un top 10 des H20. Et il faut aussi avoir deux All-Stars. Donc, il faut avoir ce joueur très fort, mais un Robin. L'idée, c'est donc que tout ça se prépare avant. Mais du coup, Madiane, on en revient à notre point de départ. Ça nous a pris 45 minutes pour revenir au point de départ. Ça dure combien de temps, en fait, la fenêtre de titre? Parce que, déjà, de base, quand tu dis qu'il faut déjà que tu sois positionné l'année d'avant, ça sous-entend qu'elle s'ouvre parfois un an après que tu sois devenu vraiment contender.
Oui, et c'est ça qui est très intéressant. C'est parce qu'en fait, tu as plusieurs dates d'expiration pour moi quand tu es contender. Et chacune va jouer différemment. La première date d'expiration, c'est la plus simple, c'est un, ton proprio. Parce que si ton proprio, il n'a pas envie de payer les taxes, tu ne vas pas pouvoir rester longtemps dans une configuration titre. Et c'est typiquement ce qui a notamment fait expirer la fenêtre de Houston, c'est que les mecs voulaient jouer le titre, ils ne voulaient pas payer la taxe. Et donc, ouais.
Un peu compliqué.
Et donc, quand tu veux jouer le titre mais pas jouer la taxe, forcément, pour moi, ta fenêtre va être à 2 ans facile. Mais déjà, à partir de 3 ans, je vois pas comment tu fais parce que tu vas devoir vraiment te tordre dans tous les sens. Et notamment, je me souviens, notre ami Moret, il avait vraiment tordu des contrats dans tous les sens au point que je crois qu'il y en a certains qui s'étaient fait retoquer par la NBA. Enfin, vraiment, il a vraiment tout essayé. Donc ça, il y a une première façon de perdre ta fenêtre. La deuxième façon de perdre ta fenêtre, c'est t'as des stars, ok, mais un, elles peuvent soit vieillir et devenir moins fortes. Je pense notamment du coup au cas des Suns. On se dit quand même Chris Paul, ça va commencer quand même à sentir la DLC. Mmh. Et et au-delà du cas Chris Paul, il y a aussi le fait que tes stars peuvent se taper sur le système l'une l'autre et du coup, il y en a une qui demande à partir. Tu as aussi ce fait-là. Tu peux avoir ta superstar qui dit « Ouais, les gars, je suis honnête, c'était cool, on a une autre fenêtre, on a pas réussi à gagner le titre, moi j'en ai marre, je me casse. » Et du coup, tu te retrouves dans une position de faiblesse parce que tu dois le trader. Et une troisième façon pour moi d'expirer, c'est que t'as une autre façon de cramer ta banque, c'est tes choix de draft. C'est-à-dire que, ok, t'as tes All-Stars, mais en fait, c'est pas eux qui vont te faire gagner. Et du coup, un des moyens d'améliorer ton effectif, c'est les échanges. Parce qu'en fait, dans les échanges, t'as un joueur qui a un contrat d'une valeur, je sais pas, de 5 millions par an. T'as un autre joueur plus fort dans une autre équipe qui a le même contrat de 5 millions par an. Ou à 6, enfin, il y a une petite marge de tolérance. T'as le droit d'échanger. Mais bon, si la valeur terrain de l'autre, on va dire qu'elle est à 10 millions et que la valeur terrain du tien, elle est à 5 millions, l'autre équipe, elle sera pas trop d'accord pour l'échanger. Et donc, tu vas devoir ajouter des choix de draft parce que ça va améliorer pour le même prix de joueur et la même valeur contrat, ça va améliorer ton effectif. Et c'est pour ça que les équipes qui sont contenders font souvent des échanges. C'est pour ça qu'il faut être positionné dès l'été parce qu'il faut être là, notamment le soir de la draft, prêt à faire des échanges pour améliorer son effectif. Parce que finalement, c'est dans ces moments-là où il y a le plus d'opportunités qui peuvent se dessiner. Et donc, il y a bien des moments où tu n'as plus assez de choix de draft à proposer intéressants aux autres équipes, parce que tu peux pas non plus envoyer tous tes choix de draft en permanence chaque année. Et donc, de par l'expiration de ces trucs-là, enfin de ces choix-là, tu expires ta fenêtre parce que tu n'es plus apte à renforcer pour une même valeur contrat ton effectif.
Ce qui prouve bien, Madiane, que si j'en reviens au point de départ, mais de départ, la théorie avancée par une partie de la fanbase des Celtics selon laquelle Brand Tatum, ça te permet d'être contender pendant 5-6 ans, ça n'existe pas en fait. Des fenêtres de contender 5-6 ans, si je m'appuie en plus sur l'article de Dubin dont j'ai parlé du début, à part les Spurs et les Warriors récemment, ou les Brand James,
ben,
ça n'existe pas. Les équipes qui
sont... là-dessus justement, vas-y. Boston... En sortie, en termes de tour de draft, le premier tour 2023, le second tour 2023, le second tour 2024, le second tour 2025, le second tour 2026, le second tour 2027, le premier tour 2028 est déjà en swap, et le second tour 2028 aussi. Donc, jusqu'en 2028, t'as déjà pas mal échangé ce que t'avais en banque en termes d'assets de draft. Donc, à mes yeux, même si tu gagnes Brown et Tatum, t'as quand même un problème pour remettre des sous dans la machine. Va falloir à un moment récupérer des assets. Tu vas pas te mettre à trader parce que là, on est seulement en 2022. Là, ça va jusqu'en 2028. Alors, il reste des premiers tours, ok. Mais ça va vite devenir limité. Là, déjà, tous leurs seconds tours sont bazardés jusqu'en 2028.
Et puis, les premiers tours, dans le développement joueur, c'est un peu à la marge de notre débat, mais dans le développement joueur, c'est compliqué un premier tour, parce que dans une équipe qui est taillée pour le titre, soit il est très très fort et il pourra jouer, mais globalement c'est pas le cas des joueurs que tu récupères quand tu es à la place de Boston.
Non, jamais. Et c'est souvent plutôt une perspective de développement à 3-4 ans. C'est-à-dire qu'un joueur en fin de premier tour peut effectivement devenir très fort, mais c'est rarement tout de suite. On n'a jamais eu un joueur. On a eu des cas un peu exceptionnel, je pense notamment à, et même hein, sa saison Rookie of the Year est pas incroyable, Malcolm Brogdon. Il arrive, il contribue. C'était très haut déjà pour un fin de premier tour. C'est même un début de second tour. J'ai plus la mémoire, mais il est dans des eaux très éloignées à la draft. Ok, c'est une exception, mais en plus, en tant qu'exception, c'était pas la meilleure saison rookie de l'histoire. Clairement pas, et je le verrai jamais dans une équipe contender. Un choix top 5, éventuellement, oui, beaucoup plus. Parce que là, on est sur des joueurs qu'on voit déjà avoir des très bonnes performances à la fac. Et donc, du coup, on peut s'imaginer qu'ils peuvent avoir des performances ok pour une rotation de playoff. Mais ça reste des cas à la marge.
36e, hein, comme pour on fact-check. 36e, du coup, Brandon. Et ouais, ça, c'est un bon exemple. Du coup, donc, première chose, la fenêtre n'est pas extensible à vue, quoi. Il y a un moment où, comme tu l'as très bien dit, vu que tu crames tes assets au bout d'un moment, que t'es de plus en plus, niveau cap, t'es bloqué. On parlera, Tom n'est pas là, mais on lui fait un coucou. Au niveau des taxes, notamment la luxury tax, la repeater tax, font que la facture d'année en année est de plus en plus salé, et il y a un moment où même les propriétaires les plus dépensiers peuvent mettre un stop. C'est là où c'est très intéressant, parce que du coup, l'article de Dobin explique que selon lui, alors ça date de 2019 encore une fois, et je l'ai réactualisé, mais la fenêtre moyenne, c'est 2 à peu près 3 ans, 2 ans et demi. Et qui est donc, si on ajoute ce qu'on a dit nous, si la première année t'es pas vraiment dedans, c'est-à-dire qu'on a que 2 ans, Madiane, maintenant? On joue le titre sur 2 ans?
Malheureusement, je pense que c'est le cas. Tu peux jouer le titre sur 2 ans. Tu regardes l'expérience des Nets, elle a explosé finalement. Et on n'a jamais eu la sensation qu'ils étaient proches de le jouer. Golden State, ils étaient en stand-by pendant 2 ans. Et là, seulement, ils reviennent dans le mix. Boston, c'est un peu une surprise de les avoir eu dans le mix cette année, mais pas tant que ça au vu de leur fin de saison. Et je me souviens que dans les podcasts de fin de saison, on disait attention, s'ils continuent sur cette lancée, ce sera un peu un faux seeding pour eux, parce qu'ils seront beaucoup plus forts qu'au début de saison où ils avaient beaucoup galéré. Les Clippers, la fenêtre finalement, ils l'ont jamais vraiment exploité. Donc est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont laissé la fenêtre ouverte aussi longtemps, je suis moins sûr. Par exemple, ils ont fait des moves de stand-by récemment en accumulant la ribambelle d'ailier. Les Bucks, je pense typiquement que cette année, après cette année, va falloir faire un gros ménage dans l'effectif. Parce que tu peux pas, par exemple, laisser Brook Lopez cette génération-là, elle va pas tenir aussi longtemps. Donc, il y a un ménage à faire. Les Suns, c'est un cas à part. Le Heat, ils sont déplumés niveau choix de draft. Je suis pas sûr qu'ils resteront à ce sommet encore très longtemps, parce qu'il y a aussi des facteurs d'âge dans l'effectif qui arrivent. Et les Sixers, c'est un cas un peu particulier à mes yeux. C'est des gens qui avaient beaucoup de jetons, qui sont pointés au casino trop tôt, qui ensuite ont rejoué chaque année différemment à chaque fois. Et qui continue à remettre des jetons. Mais il y a un moment où, ils n'ont jamais été proches, à part une année, d'être contender. Donc, ils ont mis des jetons et ils n'ont même pas réussi à s'asseoir à la table.
Les Sixers, c'est une des équipes. Il y a 3 équipes, globalement, dans ce débat-là, quand j'y réfléchis, qui ont posé beaucoup de problèmes. Madiane, Warriors, on en a parlé, Sixers aussi. Sixers, c'est bizarre, parce que quand tu parles de candidature au titre théorique, j'ai l'impression que c'est une des équipes qui et pas toujours candidate au titre théorique, mais qui fait les mouvements pendant la saison pour se rapprocher de la candidature au titre pratique.
Mais ils sont toujours entre 30. 5 et 8, en fait. C'est...
Dans les... ouais, par exemple, si on prend l'argument des cotes à Vegas, ils sont toujours là. Ce qui est un mauvaise place mise à part.
En fait, à la table
historique.
De poker, c'est ils sont à la table, mais ils ont 100 000 jetons pendant que tous les gros, ils ont 3 millions de jetons. Donc évidemment, sur plusieurs all-in de suite et des coups de chance, tu peux gagner. Mais théoriquement, avec un tel écart de jetons au poker, tu finis par sortir.
Et c'est intéressant parce que l'année où ils font le move, ce que tu l'as sous-entendu, la seule année pour toi où peut-être c'est un candidat au titre du coup pratique dans la réalité du terrain 2019 quand il passe à un tir de Kawhi d'aller en finale de conf, et je fais partie de ceux qui pensent qu'il serait allé en finale NBA, la suite on ne sait pas. Elton Brand dit au moment du trade en novembre 2018, je fais ça parce que notre fenêtre de titre est ouverte en fait. C'est très intéressant qu'il utilise ces mêmes mots-là en fait. Ça prouve bien que la manière dont tu imagines et dont tu te vois, elle est importante. Si on continue, Madian, donc la fenêtre de titre est très rapprochée et très courte. Est-ce qu'elle a tendance à être plus courte qu'avant ? Moi, je pense que oui. Je pense que le mouvement des stars fait que c'est plus court qu'avant. Le truc des 2 ans, le podcast a maintenant 6 ans et j'ai vraiment l'impression, quand je réécoute des vieux épisodes qui m'horrifient la plupart du temps, c'était pas très bon. On dit pas qu'on est bon maintenant, mais je remarque qu'en fait, oui, il y a des changements et c'est intéressant de voir que les anomalies dans certains des points statistiques que j'ai mis en avant coïncident avec ces changements de, par exemple, le titre des Warriors, le premier, ça coïncide avec le changement de crèmerie de LeBron James, par exemple, tu vois. Il y a des moments qui est, l'époque étant la prime LeBron James, ça change la carte de la NBA. Les Mavs, c'est après l'été foot 2010, ça change la carte de la NBA, en fait. Ces anomalies-là, elles s'inscrivent à chaque fois dans des petits changements d'époque, je pense. Donc, bah, dans tout cela, j'ai tendance à dire, en regardant l'histoire de la fenêtre, qu'elles sont plus courtes maintenant.
Oui, moi aussi, je pense que ça devient de plus en plus court et que tu as aussi peu de cas où je pense que, par exemple, les Bucks peuvent devenir une anomalie si Giannis continue à jurer fidélité à sa franchise. C'est-à-dire que hors cas exceptionnel où ton joueur star se lie à ta franchise et reste un top 5 DH20, donc bah il y a Curry et il y a Giannis, dans ces cas-là, bah oui, du coup, tu peux attendre 1 ou 2 ans et relancer la machine. C'est par exemple ce qui est arrivé à Dallas, où certes, du coup, c'était plus Dirk Prime, mais il était toujours là. Alors que normalement, quand ta fenêtre s'expire, si tu as des joueurs dont tu sais qu'ils ont une chance de partir, tu vas les bazarder. Et justement, pour moi, normalement, la conclusion logique de la fin de ta fenêtre d'ouverture de titre, c'est de reconstruire. Si ton joueur star ne reste pas.
Et du coup, Madian, vu que c'est le point de départ, je suis obligé de te poser cette question. 2 questions. Une que je t'ai pas préparée et une autre que je t'ai pas non plus préparée. Bon, désolé, Madian. Première chose, du coup, si on prend un peu tout ça dès le début, qui a une fenêtre ouverte en ce moment ? Selon moi, je donne la liste selon moi, comme ça je t'épargne la surprise. Warriors, Celtics, d'après les trucs que j'ai... Celtics, je mettrais Astérix niveau Jason Tatum. Il faut que Tatum prenne encore un niveau, mais il semble s'en rapprocher. Bucks, parce que les Bucks ont ce truc du champion endormi. Ils ont un top NBA et ils ont été contenders il y a 2 ans. Ils ont encore Chris Middleton. Ils ont le top 1, ils ont Robin. Je ne suis pas trop inquiet à ce niveau-là. Ensuite, et on commence déjà à aller dans les équipes où c'est un peu plus dur. Les Clippers, c'est compliqué. Les Clippers, c'est très compliqué parce que c'est vraiment de la théorie. C'est-à-dire que, oui, sur Touquet, ça marche peut-être, mais même dans l'aspect candidat au titre théorique, ils répondent à très peu de choses, à part la cote à Vegas, pratiquement. Le Heat, c'est compliqué aussi. En fait, j'ai 3 équipes au-dessus, tu vois. Madian, j'ai Warriors, Celtics, Bucks. L'équipe où va aller Kevin Durant, je pense, ça ira sûrement dans ce groupe-là. Et ensuite, il y a un parterre d'équipes qui sont plus ou moins là, avec une mention pour les Nuggets, parce qu'ils peuvent être l'équipe qui, entre guillemets, jeune, même si je ne les considère plus comme jeune à ce stade-là, qui explose d'un coup et qui peut aller très loin.
J'ai effectivement Warriors, Celtics et du coup Bucks. Les Nets sont mentionnés, mais pour moi leur effectif ne sera pas le même au bout d'un moment, donc ils sont hors de propos. Les Clippers, ouais, moi je pense que par rapport à ce qui leur est arrivé, parce qu'il y a une fois où quand même ils sont pas non complets et ils se font sortir quand même. Et moi je pense qu'ils ont pas résolu ce problème là et que ils peuvent toujours se faire atomiser par une équipe sans qu'on s'y attende. Et puis quand même avec la répétition des blessures, j'ai du mal à comprendre leur place si haute. Peut-être que j'aurais tort. Les Suns, j'ai du mal à voir leur fenêtre continuer. Moi, je pense que leur fenêtre passait par Chris Paul est le meilleur joueur de cette équipe, mais pour moi, ce n'est plus le cas. Et donc, pour moi, tant que si Chris Paul n'est pas le meilleur joueur de cette équipe, c'est non. Le Heat, je pense que pareil, notamment, ils avaient tenté le recrutement du coup de Laurie pour passer ce petit cap, mais pour moi c'était un moment court qui ne durait que cette saison. Mais déjà en playoff on a commencé à en voir des limites franches et je les vois pas se rapprocher des Celtics en termes de niveau. Et je pense qu'il faudra leur passer sur le corps, du coup, quoi qu'il arrive à un moment. Et ça, à mon avis, si c'est pas passé cette année, ça aurait peut-être pu passer cette année à l'expérience. C'est pas passé cette année. À mon avis, ça va être très difficile, hors circonstances favorables, de passer l'an prochain. Et les Sixers, moi, j'ai arrêté d'y croire.
Oui, j'ai pas mentionné les Sixers.
Qui... Ils sont huitième, hein. Ils sont à la table, hein. Ils sont à la table Vegas, mais pour moi, non.
C'est compliqué. Ouais. Après, moi, je trouve, comme je te l'ai dit dès le début sur Vegas, Madiane, on est dans une année. C'est pour ça aussi que je trouve ça intéressant de le faire cette année. Alors, il y a l'énigme Kevin Durant. Ça se trouve, Kevin Durant va rejoindre une équipe qui va un peu tout bafouer. Mais on est sur une année où on pourrait avoir un gagnant qui ne soit pas dans le top 5, en fait. Parce que même les trois premiers qu'on met en avant, Madiane, ils ont tous des points, des vrais problèmes.
Mais
l'on connaît déjà.
Moi, je pense que ta théorie sur les Nuggets est bonne, mais le problème, c'est qu'ils ont besoin d'avoir des circonstances favorables dans tout ce qui leur a été défavorable.
Trop favorable.
En fait, c'est que leur effectif n'a pas été en santé depuis bien longtemps, et donc, j'ai du mal à l'envisager. En fait, pour moi, c'est les Clippers sans pire. C'est-à-dire que les Clippers, j'attends toujours de voir sur le terrain l'équipe au complet, depuis bien longtemps qu'on l'a pas vu, mais les Nuggets, c'est encore pire. Tu comptes sur Murray qui revient au niveau auquel on l'a laissé en playoff, c'est douteux. Porter, c'est encore plus douteux. Bon. C'est mon chouchou, je tiens à le rappeler, j'ai le droit de critiquer. Et du coup, voilà. Pour moi, c'est trop douteux, c'est pour ça que c'est pas dans les cotes. C'est qu'à mon avis, ils doivent être 9 ou 10, mais c'est tellement douteux. C'est comme les Clippers, c'est disons que si tu dois mettre des paris, moi, Moi, je préfère. Ah oui, parce qu'à mon avis, il y a les Lakers, c'est tout. Mais moi, si je dois.
C'était ma prochaine question.
Non, les Lakers, on attend les moves. On attend de connaître les moves qu'ils vont faire. Les Lakers, justement, je lisais un article dessus. Là, à l'instant, pendant la préparation, visiblement, il faut lâcher deux choix de draft pour balancer Russell Westbrook. Cher, hein? Deux choix de draft pour te débarrasser de Russell Westbrook et améliorer du coup la valeur contrat, enfin la valeur terrain par rapport à la valeur contrat. Ça va être difficile, hein.
Et la dernière équipe, avant ma deuxième question, la dernière équipe du top 12 à Vegas, on a cité tout le monde sauf
ouais,
Memphis. Est-ce que Memphis, c'est pas le cas de l'équipe dont la fenêtre va peut-être s'ouvrir cette année, mais du coup, ils seront vraiment dans la vraie fenêtre l'année prochaine, en fait. C'est-à-dire, en gros, ils deviennent contenders cette année et la fenêtre s'ouvre dans un an. Même si je suis pas sûr qu'elle
devienne contenders. Non, mais je suis plus optimiste. Je pense pas qu'ils gagneront, mais c'est typiquement l'équipe qui peut faire une percée là, une grosse percée. On fait
annonciatrice de.
Ils en sont là et ils ont peut-être, je sais pas. T'arrives en finale de conférence et tu te fais taper par une équipe beaucoup plus forte que toi et tu fais OK. Mais du coup, t'es arrivé là. Et l'année dernière, tu fais bon, du coup, on est arrivé en finale de conf. Donc, si on règle 2-3 soucis, on passe les deux, la step d'après. Et la step d'après, c'est essayer de gagner le titre. Moi, je pense que c'est typiquement une équipe qui peut faire la percée pendant ses playoffs. Surtout quand on voit qu'à l'ouest, mine de rien,
c'est très indécis
parce que t'as Golden State, ok. T'as les Clippers, gros point d'interrogation. Les Suns, point d'interrogation. T'as quoi? T'as Dallas qui traîne, tu sais pas ce qu'ils vont donner. Les Nuggets, tu sais pas ce qu'ils vont donner. T'as vraiment beaucoup de points d'interrogation à l'Ouest. Et du coup, moi, je me dis, c'est pas déconnant de dire les Grizzlies, ils peuvent arriver en finale de conf sur des circonstances. Et du coup, ouvrir leurs fenêtres.
Et donc, leur fenêtre s'ouvre dans un an. Et c'est juste sur ce point-là, c'est là aussi où le reflet, c'est quelque chose que je répète dans chaque podcast, mais le reflet que tu as de toi, il est très important parce que tu peux aussi tomber dans le travers en pensant que ta fenêtre est ouverte. On a beaucoup parlé des équipes qui pensent qu'elle n'est pas ouverte, mais si on parle des équipes qui ont pu penser qu'elle est ouverte ou entre-ouverte, je peux penser aux Blazers dont on a parlé, qui avaient re-signé, tu l'as cité, en 2016, un effectif très cher. On peut parler des Hawks récemment, des équipes qui pensent ou... Je ne sais pas si c'est pour un titre, mais je pense que les Wolves imaginent qu'ils ont une fenêtre peut-être de finale de conf ouverte quelque part. Autrement, je reste persuadé que tu puisses.
Et j'avais pas oublié.
Ou alors ton objectif.
Tu te rends compte qu'on n'y croit tellement pas, qu'ils ne sont pas là, et on n'en a même pas parlé.
Ils ne répondent pas assez de cotes, en fait, de trucs qu'on a mis en avant, tu vois, Mathieu. C'est-à-dire. Déjà, ils n'ont pas été contenders l'année d'avant, donc il faut rentrer dans les archétypes de trois archétypes dont on a parlé. Explosion d'une jeune équipe, ils pourraient rentrer dedans peut-être, mais ça voudrait dire que Towns ou Edwards se rapprochent du... Quand on dit explosion d'une jeune équipe, c'est que le meilleur joueur de cette jeune équipe devient top 10 NBA. Dans le champion endormi, c'est pas le cas, ils n'étaient pas là avant. Et je, sans manquer de respect à Rudy Gobert, c'est pas comparable avec l'arrivée d'un Anthony Davis aux Lakers et encore moins de la formation d'un Big Three aux Celtics. Ils répondent à aucun des modèles d'équipes qui, d'une année à une autre, s'imposent.
Ils ont un truc pour eux, je pense, c'est que je pense qu'à la fin de la saison régulière, ils seront très hauts.
Et rappelons, ça, c'est des éléments pratiques dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais dans les éléments pratiques, de toute l'histoire de la NBA, il n'y a que deux équipes qui sont championnes sans être dans le top 3, dans les top 3 seeds. Donc c'est important. Mais ça, bien évidemment, tout cet aspect pratique, ce n'était pas vraiment le sujet aujourd'hui. Madiane, pour conclure, si, du coup, avec tout ce qu'on a dit, ça fait une heure et demie, on est chez Triba, on parle de fenêtre là depuis une heure et demie, est-ce que c'est un move? Du coup, on repart de la base. Brown, KD. Imaginons, on ne va pas parler des détails, mais la philosophie du deal. Est-ce que c'est un truc que tu fais?
Je pense, comme ce qu'ont fait les Toronto Raptors, le move douloureux pour te faire passer un step au-dessus et potentiellement jouer un titre, il faut le faire. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que c'est pas, là, t'es pas en train de mettre genre beaucoup de jetons alors que t'es loin. C'est tes proches et tu rajoutes juste un peu de jetons, mais qui te place vraiment là. Moi, je pense que quand c'est ça, il faut pas hésiter, c'est-à-dire que ok, tu peux rester fort longtemps avec ce duo, ça je le pense, mais tu ne peux pas être contender longtemps avec ce duo Brown-Tatum, ce n'est pas la même chose. Et donc le fait d'arriver avec Eddie et de renforcer la fenêtre en cours, c'est pour moi un move qui se justifie dans une NBA où on voit des trous chez tout le monde, où il n'y a pas vraiment de favoris déterminé. Moi, je pense que essayer de mettre un peu plus à ce moment-là, c'est un move très intéressant. C'est pas comme s'il y avait Prime LeBron ou du coup bon, KD est là, mais les Golden State Warriors de KD en face. C'est-à-dire que c'est un move que tu fais que quand il y a une place. Et là, il y a une place. Donc, moi, je le fais.
Sur la simple théorie de la fenêtre, je fais ce trade pour une simple et bonne raison, on l'a dit, c'est impossible de se projeter à 5 ans en fait, ça n'existe pas. Donc c'est un move que je ferais. Après, la question est de savoir à quel point ça t'agrandit ta fenêtre. Je pense que ça l'agrandit. Seul détail qui m'embête, c'est que dans le CV des Celtics, le problème à l'heure actuelle, c'est qu'ils n'ont pas le MVP slash, si on est un peu plus permissif, top 10 NBA. Ce qui m'embête dans ce move-là, peut-être que dans 2 ans, Jason Tatum y est, en fait. Peut-être qu'il y est dans 2 ans. Or, c'est de la projection à l'heure actuelle, mais peut-être que c'est là où il faut avoir la patience. Parce que, autant la progression en interne a toujours été quelque chose dont je me méfie, je pense que ça s'est entendu aujourd'hui, mais quand on fait le DH20, en gros, quand on regarde les groupes de niveau, pas besoin d'avoir fait HEC. Hein. Tu vois bien que parmi les jeunes joueurs, il y a Luka en haut, et il y a lui, en fait. C'est un des futurs. Normalement, si tout va bien, il va être très trop dans le DH20. Donc, est-ce que c'est pas un peu brûler ça. Par contre, en termes purs de fenêtre, à l'instant, oui, je le fais. Mais c'est cette petite peur que
mais,
j'ai.
Mais je pense que si ce n'est pas ce move, l'autre move, c'est peut-être laisser ses jetons sur la table cette année, mais de se retirer peut-être pendant un ou deux ans, d'être moins offensif, plus tranquille dans les mouvements, et relancer la machine
et on
sur
va exploser le
futur troisième contrat.
On va exploser la machine, mais est-ce que c'est possible ça? Moi, j'ai toujours pensé que c'était impossible maintenant. Jason Tatum a goûté à de nombreuses reprises au final de conférence, a goûté au final NBA. Je ne pense pas que tu puisses le
mais
le
c'est pour
garer
ça que j'avais parlé de la notion de fidélité de ta star. C'est ça qui a permis les fenêtres qui se sont réouvertes dans des équipes qui avaient drafté leurs joueurs, c'est-à-dire Golden State et Dallas. C'est parce que il y avait une sorte de garantie qu'ils ne perdaient pas leur star draftée. Donc, ça marche que si tu sais que Tatum et tu sais qu'il va rester. Si tu sais qu'il reste, c'est là où tu peux enclencher un scénario, petite pause et on repart.
Et les deux exemples, c'est Stephen Curry qui avait déjà goûté à l'ivresse de plusieurs titres avec les Warriors et un Dirk Nowitzki qui avait déjà qui avait un autre comment dire, qui s'inscrivait dans une, je pense, une autre ère de la NBA. Donc on verra, Madiane. On va exploser le timing, mais à vous de nous dire ce que vous en avez pensé. Quand on fait ce genre d'épisode très théorique, je dois vous avouer que quand on arrête l'enregistrement, on ne sait jamais ce que vous allez penser. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours là-dessus. Semaine prochaine, on l'avait dit la semaine dernière, nous sommes globalement carbonisés. Donc, semaine prochaine, exceptionnellement, nous allons faire une petite rediffusion et ça tombe bien. Ce qu'on va rediffuser, c'est pour ça que j'étais prêt à arrêter il y a 20 minutes, Madiane. C'est l'épisode de début d'année dernière, début de saison, avant le début de la saison 2021-2022, on avait parlé du processus de reconstruction. Donc en fait, tout va bien ensemble, parce que après avoir parlé de comment on va jusqu'au titre, on parle de la phase un peu plus triste sur comment ça se passe pour la suite. Quelque chose à rajouter, Madiane, c'était...
Les ménages vont bien, et oui, je suis très intéressé du retour des auditeurs, parce que effectivement, entre les notes, comment on a échangé sur l'épisode, etc., c'est l'un des rares où je vais réécouter tout de suite dès qu'il sera prêt, parce que justement, j'ai hâte de savoir... qu'est-ce que ça donne et ce que vous en avez pensé.
Ouais, on est sur typiquement le genre d'épisode où on peut se dire que trop de notes tue la note. Parce que là, on est sur mon côté, on est sur 10 pages, Madiane, donc il y a des trucs qui n'ont pas été dit, qui auraient peut-être été intéressants. Ben, n'hésitez pas à donner vos retours, du coup, sur Twitter, par mail, si c'est vraiment trop large pour un tweet, dunkhebdo@gmail.com. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Nous, on va prendre, je l'ai dit, la petite pause avec une petite rediffusion, mise à part, bien évidemment, si Kevin Durant se fait trader. Bon, là, on va essayer de réagir quand même, hein, parce que ce serait quand même très important. Et puis, on vous souhaite, si c'est le cas, de bons débuts de vacances, de bonnes fins de vacances, ou en tout cas, bon retour au boulot. Et puis, on se retrouve très vite. Salut!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.